Année Sainte 2025, le sens spirituel du pèlerinage, une émission proposée par l'abbé Philippe Beitia, chancelier du diocèse de Bayonne.
L'un des actes importants des années saintes, c'est le pèlerinage. Voyons-en le sens spirituel. Nous ne sommes devant toi que des étrangers et des hôtes comme tous nos pères. Les paroles du roi David devant le Seigneur tracent le profil de l'homme, non seulement biblique, mais de toute créature humaine. En effet, le chemin est un symbole de l'existence qui s'exprime à travers une gamme multiple d'actions, comme le départ et le retour, l'entrée et la sortie, la descente et la montée, la marche et l'arrêt. Depuis son apparition sur la scène du monde, l'homme marche à la recherche de buts toujours nouveaux, scrutant l'horizon terrestre et tendant vers l'infini. Il navigue le long des fleuves et des mers, gravit les monts sacrés au sommet desquels la terre rencontre le ciel de façon idéale, parcourt également le temps, le marquant de dates sacrées, ressent la naissance comme une entrée dans le monde et la mort comme une sortie pour entrer dans le sein de la terre ou être introduit dans les lieux divins. Le pèlerinage, signe de la condition des disciples du Christ dans ce monde, a toujours occupé une place importante dans la vie du chrétien. On est témoin de ce que nous pouvons lire dans la lettre aux Hébreux. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang, qui parle plus fort que celui d'Abel. Au cours de l'histoire, le chrétien s'est mis en marche pour célébrer sa foi dans les lieux qui rappellent la mémoire du Seigneur ou dans ceux qui représentent des moments importants de l'histoire de l'Église. Il s'est rendu dans des sanctuaires qui honorent la Mère de Dieu et dans ceux qui conservent la mémoire vivante de l'exemple des saints. Son pèlerinage a été un processus de conversion, un désir d'intimité avec Dieu et une prière confiante pour ses besoins matériels. Sous tous ces aspects multiples, le pèlerinage a toujours été pour l'Église un merveilleux don de grâce. Le pèlerinage d'Israël. Depuis les débuts, selon l'enseignement de l'Écriture sainte, puis tout au long des millénaires apparaissent les signes d'un pèlerinage d'Adam. Celui-ci est marqué par la naissance des mains du Créateur, par l'entrée dans le Créé et par l'errance sans but qui s'ensuivit loin du Jardin de l'Éden. Le pèlerinage d'Adam, de l'appel à marcher avec Dieu, à la désobéissance, l'espérance d'un salut, révèle la pleine liberté dont le Créateur l'a doté. Dans le même temps, il fait connaître l'engagement de Dieu à marcher à ses côtés et à veiller sur ses pas. À première vue, le pèlerinage d'Adam semble être une déviation de l'objectif du lieu saint, le jardin de l'Éden. Mais cet itinéraire peut lui aussi se transformer en voie de conversion et de retour. Sur Caïn vagabond, Caïn le premier meurtrier dans l'Écriture, veille la présence affectueuse de Dieu qui le suit et le protège. Le Père prodigue d'amour suit la route de l'abandon du Fils prodigue de péché. C'est grâce à cette attraction de Dieu que chaque parcours erroné peut se transformer pour tout homme en un itinéraire de retour et de joie. Notre itinéraire peut comprendre une étape obscure, la voie ténébreuse, la voie tortueuse, mais également le retour conversion sur la voie de la vie, de la justice et de la paix, de la vérité et de la fidélité, de la perfection et de l'intégrité. Abraham, en quittant sa terre, sa patrie et sa maison paternelle, se met en marche avec confiance et espérance vers l'horizon indiqué par le Seigneur, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux. Je cite. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant pas où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce n'est pas par hasard qu'Abraham se définira comme étranger et résident, également dans la terre promise, et comme lui ses fils Ismaël et Jacob, exilés en Padan-Aram et en Égypte. Et de la terre des pharaons que prendra naissance le grand pèlerinage de l'Exode. Les étapes telles que la sortie, la marche dans le désert, l'épreuve, les tentations, le péché, l'entrée en terre promise deviennent le modèle exemplaire de l'histoire même du salut qui comprend non seulement les dons de la liberté, de la révélation de Dieu au Sinaï, de la communion avec Dieu exprimée dans la Pâque, dans le passage, dans l'offrande de la manne, de l'eau et des cailles, mais également l'infidélité, l'idolâtrie, la tentation de retourner en esclavage. L'Exode acquiert une valeur permanente. Il s'agit d'un mémorial toujours vivant qui est reproposé également dans le retour de l'exil de Babylone, chanté par la seconde partie du livre d'Isaïe comme un nouvel exode, qui est célébré à chaque Pâque d'Israël et qui se transforme en une représentation eschatologique, autrement dit une représentation d'un bonheur futur, dans le livre de la sagesse. En effet, le but final est la terre promise de la pleine communion avec Dieu dans une création renouvelée. Le Seigneur lui-même est pèlerin avec son peuple. Le Seigneur, ton Dieu, a veillé sur ta marche à travers ce grand désert. Voici 40 ans que le Seigneur, ton Dieu, est avec toi, sans que tu manques de rien. Il nous a gardés, dit l'Écriture, tout le long du chemin que nous avons parcouru. En effet, elle rappelle avec nostalgie l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi, le Seigneur, au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Et en vertu de cette qualité de pèlerin, il est dit au peuple d'Israël, « Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimera, car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. Au contraire, il devra aimer l'étranger, car au pays d'Égypte, vous fûtes des étrangers. Celui qui prie se présente aussi devant Dieu comme un étranger et un pèlerin. C'est précisément à travers le pèlerinage vers Sion que la condition d'étranger dans sa propre patrie se transforme en signe d'espérance. La montée vers Jérusalem, qui au cours des trois grandes solennités de Pâques des semaines et des tentes, ces fêtes juives, conduit Israël parmi des hymnes de joie vers le mont Sion, devient une expérience de stabilité, de confiance et d'engagement renouvelé à vivre dans la crainte de Dieu et la justice. Le croyant entre en communion avec lui dans le culte, habitant sous la tente de son sanctuaire et demeurant sur son mont sacré, trouvant là un salut indestructible et une plénitude de vie et de paix. Au peuple de Dieu victime du découragement, accablé par les infidélités, les prophètes indiquent également un pèlerinage ouvert également à l'horizon eschatologique, dans lequel tous les peuples de la terre convergent vers le mont Sion, lieu de la parole divine, de la paix et de l'espérance. En revivant l'expérience de l'Exode, le peuple de Dieu doit laisser l'Esprit lui ôter son cœur de pierre et lui faire don d'un cœur de chair. Il doit exprimer dans l'itinéraire de sa vie la justice et la fidélité amoureuse et s'élever comme une lumière de tous les peuples jusqu'au jour où le Seigneur Dieu offrira sur le mont sacré un banquet pour tous les peuples. Chacun est dès à présent appelé à la communion dans la gratuité et dans la miséricorde de Dieu. Le pèlerinage du Christ. Jésus-Christ entre en scène dans l'histoire comme le chemin, la vérité et la vie, et dès le début, il s'introduit dans le chemin de l'humanité et de son peuple, en quelque sorte unit lui-même à tout homme, pour se placer sur les routes des hommes. Dans l'incarnation, c'est Dieu qui vient en personne parler de lui-même à l'homme et lui montrer la voie qui lui permettra de l'atteindre. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Jésus part en pèlerinage au temple de Sion pour être offert au Seigneur. Devenu adolescent avec Marie et Joseph, il se rend dans la maison de son père. Son ministère public, qui s'accomplit sur les routes de sa patrie, prend lentement l'aspect d'un pèlerinage vers Jérusalem, que l'évangéliste Saint Luc en particulier défini au cœur de son évangile comme un grand voyage qui a pour but non seulement la croix, mais aussi la résurrection et l'ascension du Christ. Les autres évangélistes connaissent eux aussi cet itinéraire exemplaire sur les traces duquel doit se placer le disciple. Quelqu'un veut venir à ma suite, il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Saint Luc précise, chaque jour. Pour l'évangéliste Saint Marc, le parcours vers la croix du Golgotha est constamment marqué par des verbes et des mots exprimant le mouvement et par le symbole du chemin. Mais la route de Jésus ne finit pas sur le mont du Golgotha. Le pèlerinage terrestre de Jésus touche à l'infini, au mystère de Dieu, au-delà de la mort. Sur le mont de l'Ascension est représentée l'étape définitive de son pèlerinage, le Seigneur ressuscité et élevé au ciel, tout en promettant de revenir, marche vers la maison du Père pour nous y préparer une place, car là où il sera, nous serons nous aussi avec lui. La communauté chrétienne, animée par l'esprit de la Pentecôte, part sur les routes du monde, parcourant les diverses nations de la terre, allant de Jérusalem à Rome à travers les routes de l'Empire romain parcourues par les apôtres et les annonciateurs de l'Évangile. À côté d'eux marche le Christ qui, comme aux disciples d'Emmaüs, leur explique les Écritures et partage le pain de l'Eucharistie. Sur leurs traces se mettent également en marche les peuples de la terre qui, en reparcourant spirituellement l'itinéraire des mages, accomplissent les paroles du Christ. Viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ce pèlerinage sur les routes du monde se situe au-delà de notre horizon, comme ce fut le cas pour le Christ, qui avait marché avec les hommes pour les conduire à la plénitude de la communion avec Dieu. Il est significatif de noter que le chemin du Seigneur est la route qu'il a déjà parcourue et qu'il parcourt maintenant avec nous. Comme Jésus qui fut tué hors des portes de la ville de Jérusalem, nous aussi, pour aller à lui, nous sortons en dehors du camp, emportant son opprobre, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Là, Dieu demeurera avec nous. Là, de mort il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Pèlerinage de l'Église. En communion avec son Seigneur, l'Église est également en route vers la ville future et permanente qui transcende les temps et les frontières, tendue, entièrement tendue, vers le royaume dont la présence est déjà à l'œuvre dans tous les pays. En retraçant avec ferveur une synthèse du chemin de l'humanité avec ses conquêtes et ses égarements, le Concile Vatican II présente l'Église comme une compagne de voyage de la famille humaine, indiquant un objectif transcendant qui va au-delà de l'histoire terrestre. Il en résulte donc un contrepoint entre pèlerinage et engagement dans l'histoire, et le monde est lui aussi appelé à offrir sa contribution à l'Église elle-même dans un dialogue vivant et intense. L'Église en pèlerinage devient spontanément missionnaire. Le commandement du Christ ressuscité « Allez donc de toutes les nations faites des disciples », met précisément l'accent sur la notion d'aller, modalité inséparable de l'évangélisation ouverte au monde. La parole de Dieu et l'Eucharistie représentent le viatique, la nourriture pour le voyage, et le trésor de cet itinéraire. Cet itinéraire est aussi intérieur et vital, pour reconquérir les grandes valeurs de l'année jubilaire biblique. Lorsque, lors du jubilé biblique, retentissait le son du cor, marqué cette date en Israël, les esclaves recouvraient la liberté, les dettes étaient remboursées afin que tous puissent retrouver dignité personnelle et solidarité sociale, la terre offrait spontanément ses dons à tous, rappelant qu'à son origine, se trouve le Créateur dont la terre se rassasie du fruit de ses œuvres. C'est ainsi que doit naître une communauté plus fraternelle, semblable à celle de Jérusalem, où les croyants ensemble, disent les Actes des Apôtres, mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et en partageaient le prix entre tous, selon le besoin de chacun. Il n'y ait donc pas de pauvre chez toi. Se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères, tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère pauvre. Le pèlerinage de l'humanité, le pèlerinage qui depuis Abraham se déroule à travers les siècles, est le signe d'un mouvement plus vaste et universel de l'humanité. En effet, l'homme apparaît au cours de son histoire séculaire comme un homo viator, un homme voyageur, un voyageur assoiffé de nouveaux horizons, affamé de paix et de justice, en quête de la vérité, désireux d'amour, ouvert à l'absolu et à l'infini. La recherche scientifique, les développements économiques et sociaux, la réapparition permanente de tensions, les migrations qui parcourent notre planète, le mystère même du mal et les autres énigmes qui concernent l'être humain, interpelle constamment l'humanité, l'orientant vers des parcours tracés par les religions et les cultures. La lumière de l'Évangile guide les chrétiens pour découvrir dans ces manifestations de la civilisation contemporaine les nouveaux aréopages, belle place en quelque sorte, grâce auxquels annoncer le salut et découvrir les signes de l'inquiétude qui conduit les cœurs à la maison du Père. Il n'apparaît pas étrange que dans le tourbillon de ces mutations permanentes, l'humanité éprouve également de la lassitude et nourrisse le désir d'un lieu qui pourrait être un sanctuaire où reposer un espace de liberté qui rende possible le dialogue avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Le pèlerinage du chrétien accompagne cette recherche de l'humanité et lui offre la certitude du but, la présence du Seigneur, car il a visité et racheté son peuple. Certains pèlerinages universels revêtent une signification particulière. Nous pensons en premier lieu aux grands mouvements de groupes, de masses, parfois de populations entières, qui affrontent d'énormes sacrifices et risques pour échapper à la faim, aux guerres, aux catastrophes naturelles, et pour rechercher pour eux et leurs proches une plus grande sécurité et le bien-être. Personne ne doit rester en spectateur indifférent face à ces flux énormes qui parcourent l'humanité comme des courants et qui se répandent sur la surface de la Terre. Personne ne doit se sentir étranger face aux injustices qui sont souvent à leurs racines, aux drames personnels et collectifs, mais également à l'espérance qui fleurit de parvenir à un avenir différent et à une perspective de dialogue et de coexistence pacifique multiraciale. Le chrétien en particulier doit devenir le bon samaritain sur la route de Jérusalem à Jéricho, prêt à secourir et accompagner son frère à l'auberge de la charité fraternelle et de la coexistence solidaire. Ceux qui entreprennent des parcours culturels et sportifs sont également de grands pèlerins laïcs. Les grandes manifestations artistiques, surtout musicales, où affluent plus particulièrement les jeunes, le flux des visiteurs dans les musées qui peuvent souvent se transformer en oasis de contemplation, les Jeux olympiques et les autres formes de réunions sportives représentent des phénomènes qui ne peuvent pas être ignorés, également en raison des valeurs spirituelles qu'ils comportent et qui doivent être sauvegardées au-delà des tensions, de la massification et des conditionnements de nature commerciale. Il existe des expériences de pèlerinage plus spécifiquement chrétiennes. Des prêtres, mais aussi des familles entières, de nombreux jeunes se déplacent ou acceptent d'être envoyés loin de chez eux pour collaborer comme missionnaires, hommes et femmes, à travers leur travail professionnel ou leur témoignage, ou encore l'annonce explicite de l'Évangile. Il s'agit d'une forme de pèlerinage qui se développe toujours davantage comme un don de l'esprit. On s'engage lors des périodes de vacances ou de congés, ou bien l'on y consacre des années entières de sa vie. Un véritable réseau d'itinéraires se développe donc sur notre planète. Certains sont religieux au sens strict du terme, ils ont pour but des villes et des sanctuaires, des monastères et des lieux historiques. Dans d'autres cas, la recherche des valeurs spirituelles se manifeste dans les déplacements vers des lieux naturels d'une rare beauté, îles ou déserts, cimes ou profondeurs marines. Cette géographie complexe des déplacements humains contient en elle le germe d'une aspiration profonde à un horizon de vérité, de justice et de paix. Elle témoigne d'une inquiétude qui trouve dans le caractère infini de Dieu le havre où l'homme peut se remettre de ses angoisses. La marche de l'humanité dans ses tensions et ses contradictions fait alors partie du pèlerinage inéluctable vers le royaume de Dieu que l'Église est engagée à annoncer et à accomplir avec courage, loyauté et persévérance, appelé par son Seigneur à être le sel, le levain, la lampe et la ville cise sur le mont. Ce n'est qu'ainsi que s'ouvriront des sentiers sur lesquels amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Sur cet itinéraire, l'Église part en pèlerinage avec tous les hommes et avec toutes les femmes qui cherchent avec un cœur sincère la vérité, la justice, la paix, et même avec ceux qui errent ailleurs. Car, comme le rappelle Paul en citant Isaïe, Dieu affirme « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » C'est pourquoi tous les peuples et tous les hommes peuvent s'orienter vers cet objectif du royaume en exprimant leur adhésion également à travers le geste explicite et emblématique du pèlerinage dans les diverses villes saintes de la terre, c'est-à-dire dans les lieux de l'esprit, où le message de la transcendance, de la grandeur de Dieu, de la fraternité, retentit de la manière la plus forte. Parmi ces villes ne doivent également pas manquer les lieux profanés par le péché de l'homme, et successivement, comme par un instinct de réparation, consacré par le pèlerinage. Nous pensons par exemple à Auschwitz, lieu emblématique du supplice du peuple juif en Europe, ou à Hiroshima et Nagasaki, des terres dévastées par l'horreur de la guerre atomique. Mais deux villes acquièrent une valeur de signe, non seulement pour les chrétiens, mais pour tous. Rome, symbole de la mission universelle de l'Église, et Jérusalem, lieu sacré et vénéré par tous ceux qui suivent la voie des religions issues d'Abraham, la ville d'où vient la loi et la parole du Seigneur. Elle nous indique le but ultime du pèlerinage de toute l'humanité, c'est-à-dire la cité sainte qui descend du ciel de chez Dieu. C'est vers elle que nous avançons. Précisément, alors que l'Église apprécie tout itinéraire vers l'absolu et vers les frères, elle s'unit à tous ceux qui, de façon passionnée et sincère, se consacrent au service des plus faibles, des réfugiés, des exilés, des opprimés, en entreprenant avec eux un pèlerinage de fraternité. Tel est le sens du jubilé visant à la création d'une société humaine plus juste, dans laquelle les dettes publiques des nations en voie de développement seront remises, et où l'on effectuera une plus juste redistribution des biens de la terre dans l'esprit de la prescription biblique. Le pèlerinage du chrétien aujourd'hui. Chaque chrétien est invité à s'insérer, à participer au grand pèlerinage que le Christ, l'Église et l'humanité ont accompli et doivent continuer à accomplir dans l'histoire. Le sanctuaire vers lequel il se dirige doit devenir par excellence la tente de la rencontre, comme la Bible appelle la tente de l'Alliance, Dieu. En effet, une rencontre fondamentale a lieu qui révèle diverses dimensions et se présente sous divers aspects. Vécu comme une célébration de sa foi, le pèlerinage est pour le chrétien une manifestation cultuelle à accomplir en fidélité à la tradition, avec un sentiment religieux intense et comme accomplissement de son existence. La dynamique propre au pèlerinage révèle avec clarté certaines étapes que le pèlerinage rejoint et qui deviennent un modèle de toute sa vie de foi. Le départ rend évidente sa décision d'aller jusqu'au but et de rejoindre les objectifs spirituels de sa vocation de baptisé. Le chemin le conduit à la solidarité avec ses frères et à la préparation nécessaire pour la rencontre avec son Seigneur. La visite au sanctuaire l'invite à l'écoute de la parole de Dieu et à la célébration des sacrements. Le retour enfin lui rappelle sa mission dans le monde comme témoin du salut et constructeur de paix. Le but vers lequel tend l'itinéraire parcouru par le pèlerin est tout d'abord l'attente de la rencontre avec Dieu. Isaïe rapportait déjà ces paroles du Seigneur. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Au terme du chemin, pendant lequel son cœur ardent aspire à voir le visage de Dieu, dans le sanctuaire où s'accomplit la promesse divine, mes yeux et mon cœur y seront toujours, le pèlerin rencontre le mystère de Dieu, découvrant son visage d'amour et de miséricorde. Cette expérience est accomplie de façon particulière dans la célébration de l'Eucharistie, où le Christ est au sommet de la révélation de l'insondable mystère de Dieu. C'est là que l'on contemple Dieu, toujours disposé à la grâce en Marie, la Mère de Dieu, et qu'on le glorifie, admirable à travers tous ses saints. Dans le pèlerinage, l'homme reconnaît que par sa naissance, il est appelé au dialogue avec Dieu, et à travers celui-ci, il est donc aidé à redécouvrir que pour rester dans l'intimité de Dieu, le chemin qui lui est offert est le Christ, le Fils de Dieu fait homme. L'itinéraire du pèlerin chrétien doit révéler ce point essentiel qui différencie le christianisme des autres religions. Dans son ensemble, le pèlerinage doit manifester que pour l'homme, le Créateur n'est pas une puissance anonyme et éloignée. Il est le Père, et nous sommes tous ses fils, frères dans le Christ Seigneur. Le pèlerinage conduit à l'attente de la rencontre avec la parole de Dieu. L'expérience fondamentale du pèlerin doit être celle de l'écoute, car de Jérusalem vient la parole du Seigneur. L'engagement primordial du voyage saint est donc celui de l'évangélisation, qui est souvent associé aux lieux saints eux-mêmes. L'annonce, la lecture et la méditation de l'Évangile doivent accompagner les pas du pèlerin et la station dans le sanctuaire pour que s'accomplisse ce ce que le psalmiste affirmait, une lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. Les moments du pèlerinage, en raison des circonstances qui les suscitent, des buts qu'ils poursuivent, de leur proximité, des nécessités et des joies quotidiennes, sont déjà un terrain favorable à l'accueil de la parole de Dieu dans les cœurs. Ainsi, la parole devient force de la foi, aliment spirituel, source pure et éternelle de vie spirituelle. Le pèlerinage conduit ensuite à l'attente de la rencontre avec l'Église, assemblée de ceux que la parole de Dieu convoque pour former le peuple de Dieu et qui, nourrit du corps du Christ, deviennent eux-mêmes corps du Christ. L'expérience de la vie commune avec les frères pèlerins devient également l'occasion de redécouvrir le peuple de Dieu en marche vers la Jérusalem de la paix, dans la louange et dans le chant, dans l'unique foi et dans l'unité de l'amour d'un seul corps, celui du Christ. Le pèlerin doit se sentir membre de l'unique famille de Dieu, entouré par de nombreux frères dans la foi, sous la conduite du Christ, grand pasteur des brebis, qui nous mène au sentier de la justice à cause de son nom, guidé de façon visible par les pasteurs qu'il a chargés de la mission de conduire son peuple. La rencontre du pèlerin avec l'Église et sa conscience d'être une partie du corps du Christ devront passer à travers un renouveau de son engagement comme baptisé. Le pèlerinage reproduit d'une certaine façon le chemin de foi qui un jour le conduisit au fond baptismaux et qui s'exprime à présent de façon renouvelée dans la participation. Le sanctuaire est cependant également l'attente de la rencontre dans la réconciliation. En effet, c'est là que la conscience du pèlerin est ébranlée, c'est là qu'il confesse ses péchés, c'est là qu'il est pardonné, qu'il pardonne, c'est là qu'il devient une créature nouvelle à travers le sacrement de la réconciliation. C'est là qu'il éprouve la grâce et la miséricorde divine. Le pèlerinage reproduit donc l'expérience du Fils prodigue dans le péché, connaît la dureté de l'épreuve et de la pénitence, s'engageant également dans les difficultés du voyage, du jeûne dans le sacrifice. Mais il connaît également la joie de l'étreinte avec le Père, riche de miséricorde, qui le ramène de la mort à la vie. Mon fils, que voilà était mort, dit le Père du prodigue, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Les sanctuaires devront donc être le lieu où le sacrement de la réconciliation est célébré avec intensité, avec participation, avec une liturgie bien conduite, avec des ministres disponibles et le temps nécessaire, avec des prières et des chants, afin que la conversion personnelle porte le sceau divin et soit vécue de façon ecclésiale. Le pèlerinage qui conduit au sanctuaire doit être un chemin de conversion soutenu par la ferme espérance de l'infinie profondeur et de la force du pardon offert par Dieu. Un chemin de conversion qui constitue la composante la plus profonde du pèlerinage de tout homme sur la terre, homme qui est toujours dans la situation de voyageur en état de cheminement. Le but du pèlerinage doit être l'attente de la rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie. Si la Bible est par excellence le livre du pèlerin, l'Eucharistie en est le pain qui le soutient sur son chemin, comme ce fut le cas pour le prophète Élie lorsqu'il a marché vers la montagne de Dieu, vers l'Horeb. La réconciliation avec Dieu et avec les frères débouche sur la célébration eucharistique. Elle accompagne déjà les différentes étapes du pèlerinage qui doit refléter l'événement pascal de l'Exode, mais surtout l'épisode du Christ célèbre sa Pâque à Jérusalem au terme de son long voyage vers la croix. Le pèlerinage est aussi l'attente de la rencontre avec la charité. Une charité qui est tout d'abord celle de Dieu qui nous a aimés le premier en envoyant son Fils dans le monde. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. La charité doit déjà être mise en acte par le pèlerin sur son chemin, en secourant les plus indigents, en partageant la nourriture, le temps, tout en ayant conscience que c'est ainsi que l'on crée de nouveaux compagnons de route. Une expression louable d'une telle charité est la tradition, introduite en beaucoup d'endroits, selon laquelle les offrandes que les fidèles présentent comme l'expression de leur dévotion consistent en biens qui peuvent être distribués parmi les plus pauvres. Une charité particulière doit être réservée aux malades en pèlerinage, en se rappelant les paroles du Seigneur. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'assistance aux pèlerins malades est l'expression la plus significative de l'amour qui doit alimenter le cœur du chrétien en marche vers le sanctuaire. Les malades doivent être accueillis de manière particulière et à travers une hospitalité plus chaleureuse. Ce qui les concerne, les malades devront se laisser irradier par l'amour du Christ de façon à vivre la maladie comme un chemin de grâce et un don de soi. Pèlerinage dans les lieux où la grâce de Dieu s'est manifestée à travers des signes. Les aide à être des évangélisateurs auprès des autres compagnons de souffrance. Ainsi, d'objets de compassion, ils deviennent des sujets engagés actifs, de véritables pèlerins du Seigneur, le long de toutes les routes du monde. Le pèlerinage conduit cependant également à l'attente de la rencontre avec l'humanité. Toutes les religions du monde, comme on l'a dit, possèdent elles aussi leur itinéraire sacré et leur ville sainte. En chaque lieu de la terre, Dieu va à la rencontre de l'homme pèlerin et proclame une convocation universelle à participer pleinement à la joie d'Abraham. Les trois grandes religions monothéistes sont en particulier appelées à retrouver l'attente de la rencontre dans la foi pour témoigner et construire la paix et la justice face aux nations pour la rédemption. Le pèlerinage lui-même, souvent accompli en terre étrangère, conduit à la connaissance d'usages, de coutumes, de cultures différentes. Il doit alors se transformer en une occasion de communion solidaire avec les valeurs d'autres peuples, nos frères dans l'humanité qui nous rassemblent et dont nous tirons notre origine dans l'unique Créateur. Le pèlerinage est également un moment de coexistence avec des sujets d'âge et de formation diverses. Il faut partir ensemble en voyage pour pouvoir ensuite avancer dans la vie ecclésiale et sociale. Les pèlerins, dans leur multiple diversité, accomplissent ensemble ce que le psalmiste souhaitait. Roi de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes, aussi les jeunes filles, les vieillards avec les enfants. Ils louent le nom du Seigneur. Sublime est son nom, lui seul, sa majesté par-dessus, terre et ciel. Le pèlerinage a également pour but l'attente de la rencontre personnelle avec Dieu et avec soi-même. Égaré par la multiplicité de ses occupations et par la prière quotidienne, l'homme a besoin de se redécouvrir à travers la réflexion, la méditation, la prière, l'examen de conscience. Dans l'attente sainte du sanctuaire, il doit s'interroger. Les grandes questions sur le sens de l'existence, sur la vie, sur la mort, sur le destin ultime de l'homme doivent retentir dans le cœur du pèlerin, afin que le voyage ne soit pas seulement un mouvement du corps, mais également un itinéraire de l'âme. Le silence intérieur, Dieu se révélera précisément comme le bruit d'une brise légère qui transforme le cœur et l'existence. Ce n'est qu'ainsi que lorsqu'il reviendra chez lui, il ne retombera pas dans la distraction et dans la superficialité, mais qu'il conservera une étincelle de la lumière reçue dans l'âme et qu'il ressentira le besoin de répéter à l'avenir cette expérience de plénitude personnelle, gardant au cœur les montées. Enfin, le pèlerinage est très souvent la voie pour entrer dans l'attente de la rencontre avec Marie, la mère du Seigneur. Marie, en qui se retrouve le pèlerinage du Fils de Dieu vers l'humanité et le pèlerinage de foi de l'humanité et celle qui avance dans le pèlerinage de l'enfant, devenant l'étoile de l'évangélisation sur le chemin. Le chrétien se met en voyage avec Marie sur les routes de l'amour, rejoignant Élisabeth qui incarne les sœurs et les frères du monde avec qui établir un monde. Le Magnificat devient alors le chant par excellence non seulement du pèlerinage marial, mais également de notre pèlerinage dans l'espérance. Le chrétien se met en voyage avec Marie sur les routes du monde pour monter jusqu'au calvaire et être à ses côtés comme le disciple bien-aimé, à afin que le Christ la lui donne comme mère. Chrétien se met en voyage avec Marie sur les routes de la foi, rejoignant à la fin le Cénacle où, avec elle, il reçoit de son Fils ressuscité le don de l'Esprit-Saint.
Vive flamme, ma seule espérance, que ton chant vienne jusqu'à toi.
Année Sainte 2025, le sens spirituel du pèlerinage. Vous venez de suivre une émission proposée par l'abbé Philippe Beitia, chancelier du diocèse de Bayonne.